Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Je ne sais pas si vous, ce soir, vous pouvez vous identifier un peu en vous disant que dans votre vie, il y a des domaines dans lesquels vous portez du fruit et vous sentez bien. Il y a des domaines dans lesquels vous ne portez pas du fruit et vous sentez mal. Est-ce que je peux avoir un sondage rapide? Qui se sent concerné par ça au moins ce soir? Je me sens beaucoup moins seul, ça ne change rien à la situation, mais c'est mieux. Et je commence à dire, Saint-Esprit, comment ça se fait que dans notre vie, nous ayons des fruits qui te rendent gloire et des fruits qui te font fuir? Des fruits qui manifestent ta présence et des fruits qui manifestent notre présence. Avez-vous déjà vécu ce moment-là où vous vous sentez mal après un moment comme celui-ci où vous vous êtes rendu compte que le fruit que vous venez de partager était pourri? Dans Jean 15, verset 8, Jésus dit, et c'est Christ qui parle, il dit « Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors, vous montrerez la gloire de mon Père. » Il dit « Portez, donnez beaucoup de fruits, ainsi vous pouvez être mes disciples et seulement dans ce cas-là, vous révélerez la gloire de mon Père. » Quelle est la... Comment expliquer le fruit, par exemple, d'une vie bénie? Comment ça se fait que quelques-uns d'entre nous, on a une vie tellement bénie ou des domaines extrêmement bénis et d'autres ont des vies, je dirais, presque maudites? Chrétiens, mais de galère en galère, de problème en problème, de colère en colère, d'amertume en amertume. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien entre le fruit que nous partageons et l'arbre que nous sommes, pour reprendre l'image que Christ utilise? Nous sommes des arbres spirituels, si vous le préférez. Nous sommes comme des arbres plantés et nous avons des racines. Quelle est la cause, par exemple, pour quelqu'un qui me dit « Je n'arrive pas à garder un travail. » Je connais des gens qui n'arrivent pas à garder un emploi. Ils quittent leur emploi tout le temps ou ils se font virer, mais ils n'arrivent pas à maintenir un emploi. Ce n'est pas un bon fruit de stabilité. Ce n'est pas un fruit qui rend gloire à Dieu. Et la personne se sent mal, se sent coupable, mais elle n'arrive pas à garder un emploi. Quelle est la racine? Quel est le point de départ d'un tel fruit? Parce que le fruit révèle la qualité de l'arbre. Le fruit révèle la racine. Le fruit, ce n'est pas juste le début et la fin. Le fruit, c'est le produit de ce que l'arbre présente. On me suit ce soir? Quel est le lien entre une vie, par exemple, de gâchis financier? Dans ma vie, j'ai souvent vécu ça, il y a encore quoi, 3-4 ans en arrière, et je vivais une vie financière en dents de scie, et mon compte était tout le temps dans le rouge, et je galérais tous les fins de mois. L'argent arrivait et partait avant qu'il arrive. Et un jour, Steve a prêché une série à EBD, École Biblique, sur les finances, l'argent est un serviteur clé. Et j'ai commencé à réellement me repentir et étudier le sujet. Je voulais savoir pourquoi est-ce que le fruit que je donnais dans les finances était pourri. Et comment ça se fait que certains, eux, au contraire, ont une vie financière bénie? Le fruit qu'ils offrent est bon. Quand tu parles de finances, tu sens la présence de Dieu, tu sens la paix de Dieu. Quelque chose me dit que la racine est bonne, que l'arbre est bon. Et ce soir, j'ai envie de vous encourager et vous dire que parfois, vous et moi, nous sommes inconscients, parfois inconscients, de la qualité ou de l'absence de qualité du fruit que nous donnons aux autres. Mais les gens, eux, le remarquent de suite. J'aimerais vous encourager ce soir, ce n'est pas un message forcément où tout le monde va dire « Alléluia, Amen, gloire à Dieu, Alléluia, Amen ». Mais c'est un message qui vous invite, vous et moi, à se dire « Est-ce qu'à Extravagance, nous sommes caractérisés par l'abondance de fruits qui rendent gloire au Père ? Est-ce que nous pouvons nous asseoir face à face et se dire « Tu sais quoi, j'ai progressé en un an. Depuis maintenant quelques semaines, l'équipe pastorale et moi-même, nous sommes en plein bilan spirituel. Quels ont été les problèmes de 2014 ? Il y en a plein. Quelles ont été nos lacunes ? Il y en a plein. Et on se remet en question. On travaille dur pour que 2015 soit nettement meilleur que 2014. » On ne va pas laisser l'échec nous arrêter. On va laisser l'échec devenir un nouveau point de départ. On apprend de l'échec et on grandit. Ce soir, c'est mon cœur pour vous de ne pas vous sentir mal, mais de vous dire, là, je sens que le Saint-Esprit me montre que dans tel domaine, je ne porte pas de fruits ou je porte des fruits pourris et je veux changer cela. Comment est-ce que tu changes cela? Une question. Si vous avez un champ qui porte de mauvais fruits, est-ce que vous prenez les fruits, vous les jetez et vous ne faites rien entre-temps pour que le fruit suivant arrive? Non, vous vérifiez la terre. Vous vérifiez l'hygrométrie, vous vérifiez l'ensoleillement, vous vérifiez la qualité de la semence, vous vérifiez tout pour que la prochaine récolte soit une bonne récolte. On ne va pas juste se dire, ah, le fruit pourri cette année, on jette, on attend le prochain. On a intérêt d'anticiper, de faire les meilleures choses pour que le fruit qui va venir soit meilleur que le fruit qui était avant, oui ou non? Matthieu 7, 17, 18 nous dit, ainsi un bon arbre porte de bons fruits. Et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Christ dit, tu ne peux pas être confus là-dessus, tu ne peux pas te dire, je suis bien avec Dieu, je suis enraciné dans sa parole, je suis bien avec Christ, et tous tes fruits sont pourris, ce n'est impossible. Christ dit, un bon arbre délivre, porte, partage de bons fruits, un arbre mauvais, des racines mauvaises, délivre, partage ou donne de mauvais fruits. Impossible d'être confus à ce sujet. Et si l'arbre est bon, si la racine est bonne, tout le reste va se manifester que sera bon, le fruit sera bon. Et si au contraire notre racine n'est pas bonne, notre fruit ne sera pas bon. Matthieu 12, 33 nous dit, si un arbre est bon, ses fruits seront bons. Si la racine est bonne, ses fruits seront bons. Regarde ton voisin, dis-lui, si la racine est bonne, les fruits seront bons. En tant que pasteur, je reçois toutes les semaines des emails, des SMS, des commentaires Facebook, des demandes de rendez-vous, et les gens me partagent comment les fruits ne sont pas bons dans leur vie. Et à chaque fois, on les ramène vers la racine. Ne te focalise pas sur le fruit pour l'instant, focalise pas sur la racine, la cause. Qu'est-ce qui fait que le fruit que tu partages n'est pas bon? Et si dans ta vie tu as de bons fruits, qu'est-ce qui fait que ton fruit est bon? Partage l'information avec ton frère et ta sœur. Donc trois vérités ce soir, trois vérités capitales, écrites par quelque part, trois vérités simples mais extrêmement importantes. Premièrement ce soir, Jésus-Christ est le vrai cep, la vraie vigne, pour reprendre ces mots à lui. Il dit dans Jean 15, verset 1 et verset 5, il dit « La vraie vigne c'est moi et mon Père est le vigneron ». Je suis la vigne. Écoutez bien, je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut comprendre ce soir que Christ est la vigne. Entre termes, Christ est la racine. Christ devrait être la racine de notre vie. Dans Ésaïe 11, 1, la parole de Dieu dit « Mais il sortira un rejeton, une racine. Du tronc d'Ésaïe, un surgeon croîtra de ses racines. » Le verset suivant nous dit dans Ésaïe 11, 10 « Car en ce jour-là, il arrivera que les nations rechercheront la racine, dressée pour être l'enseigne des peuples, et son séjour ne sera que gloire. » Ésaïe 53, 2 nous dit « Toutefois, il est monté comme un rejeton devant lui. » Et comme une racine sortant d'une terre altérée, il n'y a en lui ni forme ni apparence quand nous le regardons, il n'y a rien en lui à le voir qui fasse que nous le désirions. Et là, on parle de Christ. Quand les gens regardaient Christ, écoutez bien cela, ils ne voyaient pas ce que Dieu avait fait de lui. Les gens méprisaient Christ, ils ne se rendaient pas compte que Christ était la racine qui venait du cœur du Père et qui donnait la vie à un peuple. Le peuple de Dieu, encore aujourd'hui, ne comprend pas que toutes les choses que tu veux faire pour Dieu doivent prendre leur source en Christ. La racine de ta vie, la racine de ma vie, c'est Christ. Ce n'est pas une église, c'est encore moins un pasteur, encore moins ton épouse. Si ton épouse fait la pluie et le beau temps dans ton cœur, c'est que ton épouse a pris la place de Dieu. Si tes enfants changent l'atmosphère de ton cœur, c'est que tes enfants sont sur le trône de ton cœur, tes enfants sont ton Dieu. C'est Dieu qui détermine la qualité de mon cœur. C'est mon intimité avec Christ qui change l'atmosphère de mon cœur afin que je change l'atmosphère de mes enfants. Si ton petit copain détermine ta vie, si ton petit copain est devenu ton Dieu, Dieu seul a la puissance d'être Dieu, et Dieu ce soir te dit à toi et moi, Christ est la racine que j'ai choisie. C'est lui qui vient de mon cœur de père et qui donne la vie et qui va t'aider à porter du fruit. Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je fais une parenthèse. Tout ce que je fais sans Christ n'a aucune valeur pour Christ. Aucune valeur éternelle. Aucune. On a beau calculer, Christ est simple, il dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Que signifie le mot rien ? Rien. Dans Apocalypse 5:5, la Bible dit, et un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine, encore une fois, de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en délier les sept sceaux. Apocalypse 22:16 nous dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Comment se fait-il que Jésus-Christ puisse être la racine et en même temps la postérité? Parce que Jésus est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Tout ce que tu commenceras en Christ, tu pourras le finir en Christ. Et tout ce que tu vas commencer en crise, tu pourrais le finir en crise. Mais quand tu commences une chose en Christ, quand tu es enraciné en Christ et que tu restes enraciné en Christ, tu finiras ce que Christ veut que tu fasses. La clé ce soir, c'est est-ce que tu as compris dans ta vie que Christ est la racine qui vient du cœur du Père, c'est la source de ta vie, c'est de cette racine-là qui peut, si Christ est ta racine principale, elle alimente l'arbre que tu es, je te garantis que les fruits suivent. Et quand je priais cette semaine en disant, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai aussi mal réagi devant ce chauffard ? Il m'a dit, parce que dans ce domaine-là, tu n'as pas encore étudié la parole de Dieu suffisamment pour que le self-control devienne une valeur fondamentale de ta vie. Tu n'as pas ancré ce domaine-là dans mon cœur. La racine qui est Christ n'est pas dans ce domaine. En d'autres termes, je suis enraciné en Christ dans mon mariage ou dans autre chose. Je ne suis pas enraciné en Christ dans ce domaine. Le fruit que je porte dans ce domaine est pourri. Et dès l'instant où je vais commencer, et j'ai commencé à étudier dans ce domaine-là, à ce que ma vie soit enracinée en Christ, j'espère dans les semaines et les mois à venir ne plus jamais m'énerver pour rien. Dire les choses dans l'amour. Sans Christ, tu ne peux rien faire. Regarde ton voisin dit, sans Christ, tu ne peux rien faire. On dit ces choses-là, mais est-ce que vous comprenez que c'est Christ même qui dit, il parle, il dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Si je ne suis pas la racine de ta vie, tu ne peux rien faire. Au contraire, dans Philippiens 4:13, Paul dit, je puis tout en Christ qui me fortifie. Mes amis, juste ça, c'est une différence énorme. Sans Christ, je ne peux rien faire. En Christ, je peux tout faire. Sans Christ, je ne peux rien faire, mais en Christ, je peux tout faire. Sans Christ, j'aurai des fruits pourris. Avec Christ, j'aurai des fruits bénis. Le mot vigne ici est un mot important. Je n'ai pas le temps de tout dire ce soir, mais c'est important. Le mot vigne signifie, le mot cep, le mot vigne, signifie la vigne qui porte du fruit, contrairement à la vigne sauvage qui poussait partout en Israël, qui ne portait pas de fruits. Elle avait l'aspect de la vigne, elle avait même la beauté de la vigne, mais elle ne portait pas ou peu de fruits. Christ dit ici, je vous assure, je suis le vrai cep. Ça veut dire la vigne qui porte du fruit. Est-ce qu'il est pour ce soir possible de comprendre que ta vie, peut-être, et ma vie, nous manquons de fruits à l'image de Christ parce que nous ne sommes pas enracinés en Christ ? Peut-être que ma source est ailleurs que Christ. Peut-être que mes finances ou mon mari ou l'ascédique ou le patron dans ce domaine-là est devenu la source de ma vie et donc je compte sur lui. Si je compte sur ces gens-là ou sur le système financier ou même sur mon mari, même sur ma femme, même si elle est géniale, Elodie, aussi belle soit-elle dans son âme, ne peut pas produire le fruit que Christ seul peut produire. Aucun être humain n'a cette puissance, ce sera toujours l'imitation charnelle. La seule personne dans ma vie qui puisse produire le fruit de Dieu, c'est Christ. Et Dieu l'appelle la vigne, il appelle la racine, le tronc, le point de départ de toute chose. Deuxième chose, et très simple, mais nous sommes les branches. Écoutez bien cela, je ne sais pas si vous êtes conscient de cela, mais écoutez ce qui suit. Jean 15, 5, 8, Jésus dit, « Je suis le vrai cep, et vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. » Parce que vous avez une Bible entourée « produire ». Si quelqu'un ne demeure point en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on l'amasse, on le met au feu et il brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera fait. Il y a des hommes de Dieu sur terre aujourd'hui que je connais. Certains je connais bien, d'autres pas beaucoup. Mais quand ils parlent et quand ils prient, la chose arrive. Et quelque part, c'est parce qu'ils sont tellement ancrés en Christ. Je lisais, je ne sais pas si vous connaissez Charles Spurgeon. Charles Spurgeon est l'un de mes préférés, compliqué parfois à lire, parce que c'est du vieil anglais. Il a sorti une collection de commentaires du Nouveau Testament. Et je voulais lire ce qu'il pense, par exemple, de Philippiens. Quand tu découvres les commentaires de Charles Spurgeon sur sa lecture quotidienne des Philippiens, j'avais envie de me repentir et donner mon cœur à Jésus. Comment ce monsieur-là a fait pour avoir une telle intimité, une telle puissance à l'époque de Dieu? On l'appelle le prince des prédicateurs. À l'époque, Charles Spurgeon. Faites une recherche Google, Charles Spurgeon. Jésus dit ici, tout ce que tu demandes, tu l'obtiendras. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez alors mes disciples. Romains verset 4 qui dit « Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut point de lui-même porter du fruit. » Tout le monde dit de lui-même. Tout le monde dit de moi-même. Regarde ton voisin, dis-lui, tu ne peux pas porter du fruit de toi-même. Vous savez, c'est une chose que j'ai vraiment réfléchi depuis quelques jours. Écoutez bien cela. Est-ce que c'est la branche qui produit le fruit? Ah, ici, il n'y a pas de, vous n'êtes pas fort en biologie végétale. C'est l'arbre qui prend racine, qui produit le fruit. Les branches portent le fruit. Les branches permettent de présenter le fruit. Les branches rendent le fruit accessible. Mais si, écoute bien, pour te prouver que j'ai raison, tu coupes la branche, tu la poses à côté de l'arbre, elle ne pourra plus jamais porter du fruit. La branche en elle-même ne peut pas produire le fruit. Elle ne peut que le porter. Et si elle n'est pas connectée aux racines, au tronc, à l'arbre à laquelle elle est attachée, elle ne portera plus jamais de fruit. Et c'est l'un des problèmes de l'Église. Dès l'instant où je suis déconnecté du Christ, je ne porte plus le fruit de Christ. Galates, quel est le fruit de Christ? Galates 5, 22, qu'on connaît tous par cœur, je pense. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. La bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le mot « porter du fruit » ici, écoutez bien ça, c'est important qu'on commence à ce soir, ne signifie pas « produire ». Tu ne peux pas produire l'amour, la paix, la joie, la douceur, le self-control. Tu ne peux pas produire la maîtrise de soi. Tu ne peux pas produire. Tu ne peux que le manifester. Et toi et moi, nous pouvons le manifester et le porter donc, et l'amener et le rendre visible que si je suis puissamment connecté à Christ. Seul Christ produit le fruit. Seul Christ, c'est extrêmement important. Ça peut changer votre vie de prière, votre approche de la vie. Au lieu que toi et moi, on se concentre sur le fruit qui est pourri, allons plutôt se dire, est-ce que je suis connecté à Christ, au cep, là ce soir, dans ce domaine de ma vie? Parce que si je n'aime pas le fruit que je porte, si ma famille n'aime pas le fruit que je porte, si mes voisins n'aiment pas le fruit que je porte, si mon patron n'aime pas ce fruit-là dans ma vie, si mon fruit est pourri, c'est que je n'ai qu'à suivre la branche, le tronc, la racine n'est donc pas en Christ, parce que tous les fruits que Christ produit sont extraordinairement bons. Le fruit de l'Esprit, le fruit de Jésus-Christ, c'est de deux raisons. Manifester la nature de Dieu. Et deuxième chose, écoutez bien cela, les gens qui m'entourent, les gens qui vous entourent doivent goûter au fruit que je produis. Les gens qui nous fréquentent goûtent tous les jours au fruit que nous portons. La question est, quels sont ces fruits ? Il est très facile de savoir quels sont les fruits de Christ. Très facile. Mes amis, Dieu est tellement bon avec nous, il a simplifié les choses. Qui veut savoir quels sont les fruits qui manifestent Dieu ? Aucune confusion possible. Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la triste de soi, la douceur, c'est les fruits de Dieu. Donc si j'ai un manque de fruits de Dieu dans ma vie, il me suffit de vérifier l'état de ma racine. Est-ce que je suis enraciné en Christ ? Demeurez en moi. Le secret ici, vous savez, c'est quoi, hein ? Demeurez. Tout le monde dit demeurez en Christ. J'ai presque fini, mes amis. Écoutez bien ça. Le mot demeurer en grec signifie rester quelque part pour un long moment. Écoutez bien cela. Hein ? Avec l'idée puissante de résister aux tempêtes, aux intempéries ou aux conditions adverses. Le mot grec ici, ce n'est pas juste demeurer du style « Oh, je demeure en Christ dans le calme et c'est génial, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. » Non, non, non. Le mot « demeurer » que Christ ici choisit, c'est le mot qui dit « demeure en moi, quelle que soit la situation. » Ça veut dire que prépare-toi à avoir des moments difficiles, mais demeure en moi. Il y a des chrétiens qui, dès que c'est difficile, quittent l'Église. Il y a des mariages où dès que c'est difficile, on quitte sa femme, ou on quitte son mari. Il y a des mariages ou des amitiés, si le gars t'a blessé, je quitte mon amitié, t'es plus mon ami. Et ça n'a rien à voir avec le mot demeurer. Demeurer signifie, même si c'est dur, même si je souffre pour une saison, je vais demeurer, je ne vais pas lâcher le cœur de Dieu. Il y a des gens qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes, puis dès qu'il y a un problème financier, ne donnent plus leurs dîmes et leurs offrandes. C'est pas ça. Christ parle ici, demeure en moi, quelle que soit la circonstance. Et c'est là que tu porteras du fruit. Et j'ai commencé à faire une étude sur le vin. Moi, j'aime bien de temps en temps boire un jus de fruits fermenté. Un jus de raisin fermenté, rouge. J'aime bien ça. Et je suis contre, bien sûr, l'alcoolisme et tomber dans l'alcool, mais je trouve qu'on a la chance d'être en France. C'était avec moi, on a vécu dans un pays étranger quelques mois ensemble, quelques années ensemble, et dans ce pays étranger, dont je vais taire le nom pour pas avoir de problème, tu n'as pas le droit de boire, enfin les chrétiens n'ont pas le droit de boire du vin. Et un ami à moi qui est pasteur me dit, mais toi t'as de la chance, t'es français, ta culture te sauve. Je fais, ouh, alléluia, Jésus est vivant. Et quand je buvais du vin, je peux me faire incendier, mais pas par les amis anglophones, parce qu'ils savent que je suis français. C'est pas grave. Donc l'idée, c'est que j'ai étudié le vin. J'ai étudié la vigne. Écoutez bien ce que j'ai découvert ce après-midi. Les meilleurs raisins sont produits par une vigne qui a subi des moments difficiles. Si la vigne n'a jamais fait face à un moment délicat, elle donnera un vin, un raisin avec très peu de saveur, très peu de jus, très peu de peps. Mais si la vigne a résisté, écoutez bien le mot, résisté, demeuré, lorsqu'il y a eu d'intempéries, trop de soleil, trop de chaleur, mais c'était juste ce qu'il faut, attention, c'était juste ce qu'il faut, c'est juste le moment dur qu'il faut, tout d'un coup, le vin est meilleur. Quelle image extraordinaire de vous et de moi ce soir qui, en tant que sarment, branche avec Christ, vigne dans le jardin de Dieu, si vous encaissez les moments difficiles, le fruit que vous porterez de la part de Christ sera meilleur, mature, profond, réel, tangible, solide, extraordinairement goûteux. Exactement. Et c'est ça la différence. Et c'est ça, quand tu rencontres un chrétien, je sais pas si j'ai vécu ça, mais je pense pas finir les trois points, mais quand tu rencontres un chrétien qui a du poids, avez-vous déjà vécu ça? Vous rencontrez un chrétien qui a du poids. Et à contrario, tu es face à un chrétien qui n'a pas de poids. T'as, le gars parle, mais c'est du vent. Et sans inverser, mais t'as envie de lui dire, écoute, chante-moi une chanson de Frédéric François, c'est mieux. Ça m'arrive de faire ça. Tu écoutes un gars, tu fais, mais, chante-moi, je sais pas moi. Je vais au soleil le lundi, je sais pas. C'est pas chanson, c'est pas grave. Mais quand tu rencontres un chrétien, écoutez bien ça, tu rencontres un chrétien qui a du poids. Ses paroles guérissent ton âme. Ses paroles t'encouragent, sa présence te fortifie. Tu le fréquentes, tu dis, je me sens mieux avec toi. Parce que ce chrétien-là, le fruit qu'il a porté, vient de longues années à demeurer en Christ malgré les moments difficiles. Et c'est surtout à cause des moments difficiles que le raisin qu'il offre est de bonne qualité. Dernier point ce soir. Dernier point. La Bible dit que dans Jean 15:1, Jésus dit, je suis la vraie vigne, c'est moi la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Écoutez bien ce que j'ai découvert encore cette semaine, ça m'a touché. Le Père est le vigneron. Je n'ai pas le temps de tout dire ce soir, mais c'est profond comme étude. Le Père est le vigneron. Entre termes, nous appartenons au Père. Et le Père vérifie la qualité. Et je vais finir en vous lisant, donnez-moi encore 3-4 minutes, je vais tenter de finir en vous lisant une histoire qui a commencé dans Ésaïe et qui se termine dans le Nouveau Testament. Ésaïe 5, la Bible dit « Laissez-moi chanter une chanson au nom de mon ami. » Elle parle de mon ami et de sa vigne. On parle de Dieu et de son fils Christ. Et il dit ici « Mon ami avait une vigne sur une petite colline au sol fertile. Il a retourné la terre, il a enlevé les pierres et dans sa vigne, il a mis des plants de bonne qualité. » Tu es un plant de bonne qualité. Il a construit une tour pour surveiller la plantation. Il a aussi creusé un pressoir. Il attendait de sa vigne du bon raisin. Le Père attend de sa vigne du bon raisin. Mais elle n'en a donné que du raisin acide. Alors mon ami a dit, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, c'est vous qui allez juger entre ma vigne et moi. J'ai tout fait pour ma vigne. J'attendais du bon raisin, je ne pouvais rien faire de plus. J'attendais du bon raisin, mais elle n'a donné que du raisin acide. Et le vigneron se dit, mais pourquoi donc? Eh bien, je veux vous dire ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la clôture qui l'entoure, ça part de la protection. Les animaux mangeront les feuilles de ses planches, je démolirai son mur et les passants écraseront sa terre en marchant dessus. Je ferai d'elle une terre de brousse, personne ne coupera ses branches, personne n'arrachera ses mauvaises herbes, personne ne prendra soin de lui, cette vigne. Des buissons d'épines pousseront dans ma vigne. Les buissons d'épines sont le symbole de démons qui viennent inonder la vie de celui dont la vigne n'est pas taillée par Dieu. Personne ne coupera ses branches, verset 6, pousseront dans ma vigne. J'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. J'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. Ça parle de la bénédiction, de la faveur de Dieu sur une vigne. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. Nous sommes aujourd'hui l'Israël spirituel. Oui, la plantation qu'il aimait tant, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur attendait de lui qu'il respecte le droit. Mais partout, c'est l'injustice. Il attendait de lui la justice. Mais partout, ce sont des cris des gens sans défense. Quand une église ou la vigne de notre vie n'est pas connectée à Christ, qu'elle ne porte pas le fruit que le vigneron attend d'elle, les gens sont sans défense. Et on poursuit, on finit avec cette histoire. C'est le reste de l'histoire, la suite de l'histoire, dans Matthieu 21, 33. Des siècles plus tard, Christ arrive et il dit, écoutez une autre histoire, un propriétaire plante une vigne, Ésaïe 5. Il l'entoure d'un mur, Ésaïe 5. Il creuse un trou pour le pressoir, Ésaïe 5, pour son raisin. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Christ est en train de citer le cœur du Père révélé dans Ésaïe 5. Le Père veut planter une vigne qui porte du fruit et le Père s'attend à avoir des magnifiques fruits. Jésus dit, au moment où l'on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs, les frappent le premier, ils tuent le deuxième et ils font mourir le troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais les vignerons leur font la même chose. Enfin, écoutez bien ce verset qui me touche ce soir particulièrement. Enfin, le propriétaire leur envoie son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Ils respecteront mon fils. Le Père nous dit ce soir, Luc 20, 13, alors le propriétaire de la vigne se dit, qu'est-ce que je vais faire ? La même question dans Ésaïe 5, pourquoi il n'y a pas de bons fruits ? Le Père dit, je veux des bons fruits, j'ai tout fait pour des bons fruits, c'est une bonne vigne, le point de départ est bon, qu'est-ce qui se passe ? Je vais envoyer mon fils pour tout changer. Et il dit, sans doute, ils vont le respecter, mon fils bien-aimé, ils vont le respecter, j'envoie mon fils pour tout changer. Le plan du Père est que vous et moi, nous soyons de superbes vignes qui portent du fruit extraordinairement bon et goûteux et glorieux. Et entre-temps, l'ennemi vient, fracasse les problèmes, les doutes, et puis tout d'un coup, le Père envoie son fils, la racine, le vrai cep. Marc 12, 6, il dit, il ne restait plus désormais qu'une seule personne à envoyer, une seule personne, la dernière, toute dernière option, son fils bien-aimé. Il leur envoyait en dernier et se disait, pour mon fils au moins, ils auront du respect. Ce soir, je veux conclure avec, en vous disant, est-ce que vous et moi, nous avons du respect pour Christ ? Est-ce que dans ma vie, ce soir, j'ai du respect et je comprends que le Père a envoyé Christ pour que ma vigne, la vigne que je suis, les sarments que je suis, le fruit que je veux porter soit à la gloire du Père.